Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. Avec ce soir un invité exceptionnel, il a 47 ans, il est français et c'est lui qui pourrait demain vacciner la planète contre la Covid-19. Il s'appelle Stéphane Bancel et il est le patron du laboratoire Moderna qui vient d'annoncer un vaccin efficace à plus de 94%. Ses usines ont déjà débuté la fabrication des doses, des millions sont déjà prêtes à être acheminées, nous dit-il. Alors comment va s'organiser cette grande logistique? Comment est-il parvenu à réaliser en si peu de temps un produit aussi efficace? Il nous dira tout dans quelques minutes. À 18h30, les grandes voix du mardi avec qui on débattra de la proposition de loi qui fait polémique sur l'interdiction de filmer les policiers. Et puis 19h15, le club des idées. Comment sauver le sport français? Au-delà de la compétition et du loisir, c'est tout le lien social qui est en train de s'effondrer avec l'arrêt du sport amateur, pour les jeunes notamment. Et bien ce soir, le président Macron annonce une reprise pour les enfants dès le mois de décembre et plus de 400 millions d'aides. Alors, est-ce que ce sera suffisant? On en parlera très largement tout à l'heure avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous êtes sur Europe 1.
Il y a des faux négatifs, mais c'est mieux que de ne pas se tester du tout. C'est utile quand on va dans une collectivité. C'est utile quand on part en voyage.
Et oui, d'ici quelques semaines, une pharmacie sur deux proposera des tests antigéniques très utiles avant de rendre visite à une personne âgée, par exemple, ou bien de prendre un avion.
Des tests que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes va proposer à 8 millions d'habitants de son territoire avant Noël. Laurent Wauquiez répond ce soir au ministre de la Santé, Olivier Véran, qui parle d'un effet d'annonce.
Les sportifs reçus aujourd'hui à l'Élysée, pas de calendrier, mais Emmanuel Macron promet de sortir le chéquier. L'État va dégager une enveloppe de 400 millions d'euros, on vous détaille tout dans un instant.
Quand le flou crée des remous, passe d'armes cet après-midi à l'Assemblée nationale avant l'examen de la proposition de loi sur la sécurité globale.
Et puis, des câbles inversés, ça paraît incroyable. Cette inversion est à l'origine de l'échec la nuit dernière du lancement de la fusée Vega. La Bourse de Paris a clôturé ce soir en hausse de 0,21% à 5 483 points.
Elle est plutôt bien câblée. Anissa est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le ciel se couvre demain.
Oui, alors à l'ouest uniquement et sur la Bretagne uniquement, parce que partout ailleurs, demain, il va faire très beau. Les températures grimpent encore. Vous allez voir qu'on va atteindre des records. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les tests antigéniques, nouvelle arme anti-Covid, débarquent désormais massivement dans vos pharmacies.
Déployés pour soulager et désengorger les laboratoires en complément des fameux tests PCR.
Alors c'est vrai qu'ils sont un peu moins fiables, mais néanmoins très utiles, Ève Roger, en particulier dans certaines situations.
Oui, très utile et très fiable si vous avez des symptômes, toux, fièvre ou courbature. Il suffit d'aller chez son médecin ou en pharmacie et vous avez un résultat en une vingtaine de minutes seulement. Si le test est positif, vous pouvez être sûr et certain d'avoir attrapé le virus. En revanche, si vous n'avez pas de symptômes et que le test est négatif, il y a un risque sur deux ou même trois que vous soyez quand même infecté. Donc prudence. Mais pour Philippe Besset, le président de la Fédération des pharmaciens, ce test reste quand même utile malgré cette faiblesse.
Il y a des faux négatifs, mais c'est mieux que de ne pas se tester du tout. C'est utile quand on va dans une collectivité. C'est utile quand on part en voyage. Un individu asymptomatique qui veut prendre l'avion, il aura depuis son officine un résultat négatif avec une attestation venant de SIDEP qui lui permettra de prendre l'avion.
Alors au ministère de la Santé, on précise quand même qu'il faut se renseigner auprès des compagnies aériennes, donc vous l'avez compris, si vous devez prendre l'avion, allez voir votre grand-mère à son domicile ou dans son EHPAD. Les tests antigéniques jouent un rôle de filtre, d'autant qu'ils vont monter en puissance. Demain, vous pourrez même le faire chez votre dentiste ou chez le kiné, mais à une restriction près. Attention, si vous êtes cas contact, seul le test PCR réalisé en laboratoire fait foi.
Ève Roger, on revient vers vous dans un instant. Des tests antigéniques massifs, c'est ce que propose justement Laurent Wauquiez, donc le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, il annonce qu'il va permettre à 8 millions d'habitants de son territoire, avant Noël, de se faire dépister. Jean-Luc Bougeon, vous êtes en direct de Lyon avec sans doute aussi une petite arrière-pensée politique.
Eh bien oui, parce que les élections régionales, c'est au printemps prochain. Mars ou juin, on ne sait pas encore. Et Laurent Wauquiez, même s'il dit partout qu'il serait indécent de parler de cela en ce moment, y songe forcément. N'en parlez jamais, y pensez toujours. Cela pourrait être la devise de l'ancien président des Républicains, qui espère bien se faire réélire. Du coup, sa stratégie, eh bien, c'est d'apparaître comme le champion national de la lutte contre le Covid. Il y a quelques jours, il faisait la promotion des purificateurs d'air qu'il va faire installer dans le lycée ou dans les cantines, comme en Allemagne. Aujourd'hui, c'est donc une campagne de tests massif organisé pour tous les habitants de la région entre le 16 et le 23 décembre prochain pour éviter que Noël soit un moment de grande contamination, explique Laurent Wauquiez.
Dans notre pays, à ce stade, et pour des raisons que je ne comprends pas, personne ne passe le pas. Nous, la moindre initiative dans notre région qui peut servir à protéger, on veut le prendre. Donc on a décidé de précommander massivement des tests. L'objectif est de permettre de tester le plus d'habitants de notre région sur un intervalle très court. Plus on teste, plus on détecte le virus, plus on peut empêcher sa circulation.
Voilà, vous avez entendu la pique au gouvernement qui, selon Laurent Wauquiez, resterait inactif sur ce terrain. Ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a ironisé sur cette initiative, affirmant se méfier des effets d'annonce du président d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui répond ce soir.
Je me souviens, Olivier Véran, il y a 8 mois, disait les masques, c'est inutile. Ben, heureusement qu'à l'époque, on ne l'a pas écouté et que nous, on avait enclenché la production de masques et la distribution. Donc je pense qu'aujourd'hui, un ministre de la Santé, plutôt que de faire des polémiques, il a plutôt intérêt à travailler avec tous ceux qui essayent de se bouger.
Voilà, vous l'entendez, la crise sanitaire n'empêche pas la guéguerre politique de se poursuivre.
Jean-Luc Bougeon, en direct de Lyon. Merci Jean-Luc. Ève Auger, vous êtes toujours avec nous. Guéguerre politique, dites à l'instant Jean-Luc Bougeon. Qu'est-ce que le ministre de la Santé reproche exactement, Ève, à Laurent Wauquiez ?
Eh bien, au-delà de l'effet d'annonce très bien décrit par Jean-Luc Bougeon, surtout, il lui reproche de ne pas anticiper le service après-vente. Je m'explique, après une campagne massive comme celle-ci, il va y avoir forcément beaucoup de cas positifs, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes où la deuxième vague est puissante. Ces cas positifs, il faudra les isoler pour casser les chaînes de contamination. Pas sûr, estime Olivier Véran, que Laurent Wauquiez ait prévu la logistique pour encadrer et accompagner l'isolement des malades dans sa région, surtout à la veille de Noël. Et si ce n'est pas fait, cette campagne de test ne servirait à rien.
Eh bien, merci pour ces précisions. Ève Auger, chef du service Société d'Europe 1.
Le gouvernement qui est par ailleurs dans les starting blocks, il se prépare à une campagne de vaccination massive contre la Covid dès le mois de janvier.
À condition, bien évidemment, que l'un de ces vaccins soit au préalable validé par les autorités de santé européennes et nationales. 1,5 milliard d'euros spécialement budgétés pour ça. Plusieurs centaines de millions de doses ont été réservées au niveau européen auprès des différents laboratoires.
Et on en parlera dans quelques secondes avec notre invité exceptionnel Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, qui vient donc d'annoncer un vaccin efficace à plus de 94%.
La perspective d'une réouverture avant les fêtes s'éloigne pour les cafés, les bars et les restaurants. Ce devrait être plutôt mi-janvier.
Oui, pas de décision en revanche pour les commerces non essentiels. La date du 1er décembre, au plus tôt, est toujours sur la table.
Oui, même si le porte-parole du gouvernement laisse entendre que cette réouverture pourrait intervenir un peu plus tôt. Mais là encore, c'est la situation sanitaire qui prévaudra. Dès vendredi de cette semaine, en revanche, les fleuristes auront le droit de vendre des sapins de Noël, mais uniquement à l'extérieur, sur le trottoir, devant leur magasin.
La SNCF, maintenant, assure qu'elle sera prête pour les fêtes de fin d'année. C'est ce qu'a dit ce matin sur Europe 1 son PDG, Jean-Pierre Farandou, qui n'attend plus que le go sanitaire du gouvernement.
Et sans attendre, il conseille aux Français de réserver. La SNCF promet de rembourser gratuitement ou d'échanger les billets en cas d'impossibilité de se déplacer. On y reviendra dans notre journal de 19h.
On le disait également, Isabelle, le monde du sport avait rendez-vous aujourd'hui avec Emmanuel Macron.
Visioconférence avec une vingtaine de représentants, les sportifs professionnels et amateurs très pénalisés, bien sûr, eux aussi par ce deuxième confinement et qui réclament un plan d'urgence. Le chef de l'État les a entendus. Il débloque 400 millions d'euros. 400 millions, pourquoi faire précisément, Simon Rubin ?
Alors, sur ces 400 millions d'euros, déjà, 200 étaient de fait prévus dans le projet de loi de finances. Alors concrètement, parlons d'abord des mesures pour le monde amateur. Lancement dès 2021 du pass sport. Ce sera l'État qui prendra en charge l'achat de licences sportives. Reste à savoir quel public sera visé exactement par la mesure qui sera financée à hauteur de 100 millions d'euros. Bon, par ailleurs, 5000 postes de service civique seront envoyés dans les clubs pour notamment compenser la perte de bénévoles. Ça représente à peu près 20 millions d'euros. L'Élysée qui annonce aussi une reconduction du fonds d'urgence pour le sport, augmenté de 15 millions d'euros. Donc ça, c'est pour les amateurs et pour les professionnels. Exonération de charges sociales pour octobre, novembre, décembre, sans critère de baisse du chiffre d'affaires, mesure très appréciée par les présidents de clubs. Et puis surtout, un fonds de compensation pour les pertes en billetterie. Chaque club sera indemnisé par l'État au cas par cas en fonction de l'importance de la billetterie dans le chiffre d'affaires habituel du club. Un fonds qui pèse 110 millions d'euros.
Et alors on sait que c'est compliqué bien sûr, mais est-ce qu'on a quand même une date pour un éventuel retour à la normale ?
Alors pour le coup, c'est effectivement beaucoup plus flou et c'est normal puisque tout dépend de l'évolution de l'épidémie. Mais si la situation continue de s'améliorer du côté de l'Élysée, on veut relancer la machine et donc permettre à nouveau aux mineurs, au moins aux mineurs, de retourner en club sous le régime d'un nouveau protocole sanitaire. Ce retour en club pourrait avoir lieu dès le mois de décembre. En revanche, pour les professionnels, pas de public dans les stades avant 2021. Un point d'étape aura lieu début janvier. Et quoi qu'il arrive, ce retour du public se fera selon des jauges adaptées à chaque enceinte.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Et on en parlera tout à l'heure dans le Club des idées à partir de 19h15. Car c'est vrai que derrière le sport, la compétition, les champions, il y a aussi le vecteur du lien social. On le verra et on l'entendra, très important pour le socle de notre société, au-delà du sport d'ailleurs.
Europe 1. Julien Bugier.
18h09, vous restez avec nous. À suivre dans votre journal, la proposition de loi sur la sécurité globale est-elle liberticide? Il y a débat à l'Assemblée nationale.
Et puis qui a mal branché les câbles?
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal, 18h10 avec Isabelle Millet. On en vient à cette proposition de loi sur la sécurité globale examinée en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale.
C'est un texte controversé qui comprend une série de mesures sécuritaires qui suscitent l'inquiétude des défenseurs des libertés, notamment le fameux article 24 qui propose l'encadrement très strict de la diffusion d'images de policiers et de gendarmes.
Et qui prévoit des peines de prison et des amendes pour tous ceux qui publieraient des vidéos ou des photos.
Les opposants voient dans cet article l'impossibilité de dénoncer de possibles dérives policières. En tout cas, Claudia Bertram, vous êtes à l'Assemblée où cette proposition de loi, avant même son examen, a donné lieu à quelques passes d'armes cet après-midi.
Oui, il va y avoir du débat, il va y avoir du sport, promettons à gauche. Socialistes, communistes ou encore insoumis sont vent debout contre ce texte et notamment, vous l'avez dit, l'article 24 qu'ils jugent liberticide. Le député PS, Boris Vallaud.
Elle me paraît présenter des risques bien trop grands. Est-ce que cette loi aurait permis de révéler les images de Monsieur Benalla? Je ne le crois pas.
Et certains alliés de la majorité non plus ne sont pas à l'aise avec cet article 24, comme le Modem qui veut le supprimer, comme l'explique le député Erwan Balanon.
On est dans un état de droit où on est à visage découvert. Si les images sont utilisées de façon qui porte atteinte à la sécurité des policiers, oui, il faut travailler là-dessus. Mais pas dans un dispositif qui retouche la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Alors face aux critiques, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a défendu ce texte de toute atteinte à la liberté de la presse ou d'informer dans l'hémicycle cet après-midi.
Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer, à diffuser? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer l'intervention de police? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Alors non.
Les députés sont sur le point de démarrer l'examen de ce texte. Discussion et débat qui devrait durer une semaine.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Dans l'actualité également ce soir, la fusée Vega de l'Agence spatiale européenne qui transportait deux satellites d'observation de la Terre a dévié de sa trajectoire 8 minutes seulement après son décollage.
Et oui, c'était la nuit dernière et c'est un nouvel échec donc, dont on connaît ce soir les raisons. Lors d'Autriche, il y a visiblement quelqu'un qui a inversé des câbles.
Oui, alors ça peut sembler difficile à croire, mais il y a eu un problème d'inversion des câbles au moment où la fusée a été fabriquée. Le patron d'Arianespace, Stéphane Israël, vient d'expliquer que des câbles ont été mal connectés sur l'étage supérieur de la fusée. Et c'est pour cette raison que la nuit dernière, la fusée a été perdue en vol. Tout avait bien commencé jusqu'à cet incident, 8 minutes après le décollage, au moment où doit s'allumer tout en haut le dernier moteur chargé d'ajuster la trajectoire. La fusée a alors dévié de sa trajectoire, elle est sortie des radars et puisque tout est automatisé, c'est impossible à rattraper. La fusée devait mettre en orbite 2 satellites à 700 km d'altitude, dont un satellite qui devait étudier les phénomènes électriques qui se déroulent au-dessus des orages. Le coût du projet, 115 millions d'euros. L'autre satellite a coûté, lui, 200 millions d'euros. Tout cela est évidemment perdu. Ce sont aussi 20 ans de travail qui sont anéantis pour les ingénieurs qui ont travaillé sur cette mission. Et puis c'est un coup dur pour les lanceurs européens. Vega est fabriquée en Italie. C'est la fusée la plus fine, la plus légère des fusées européennes. Et elle a déjà connu un autre échec il y a 1 an et demi. La fusée s'était alors cassée en 2 minutes après le décollage.
Merci beaucoup Lord Autriche pour ces précisions.
On ne s'aimerait pas être à la place de celui qui a inversé
moi
les câbles. Ça doit chauffer dur ce soir chez le lanceur européen. Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres 18h30. Et le journal à 19h. Une petite perturbation nous arrive demain, Anissa, au cœur d'une très belle journée.
Voilà.
Alors, petite perturbation,
petite
comment?
Toute petite, elle va toucher la Bretagne, malheureusement, pour les Bretons qui nous écoutent. Le ciel sera très couvert sur votre région demain, avec des petites pluies et du vent sur les côtes. Au nord de la Loire.
Petites pluies, mais c'est de la pluie, Anissa.
Non, petites. Ah non, petites des pluies, petites pluies, vous savez,
celles,
vous avez l'impression qu'il ne pleut pas, mais vous sortez, vous êtes quand même mouillé. Voilà, c'est cette pluie-là. De la brume et des brouillards demain matin au nord de la Loire et puis alors au sud de la Loire. C'est l'été, le soleil va s'imposer sur toute la France sauf la Bretagne et les pays de la Loire demain et les températures, Julien, je vous le disais, 13
très très douces, 11 à 21 degrés, jusqu'à 24 dans le sud de la Garonne.
24, bien. Ça me laisse
ça vous
voix.
A séché.
Voilà. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour un nouveau Point Météo.
Europe 1, Julien Bugier.
18h15, vous restez avec nous dans quelques secondes. Entretien exceptionnel avec le patron de Moderna qui vient d'annoncer un vaccin efficace à 94% contre la Covid. Il nous dit tout dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h20, il a 47 ans, il est français, originaire de Marseille, et c'est lui qui, avec sa société, s'apprête à vacciner la planète entière contre la Covid-19. Bonsoir Stéphane Bancel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le patron de la biotech américaine Moderna, qui a annoncé hier un vaccin efficace à plus de 94%. J'imagine que la période depuis cette annonce doit être complètement folle. Comment avez-vous d'abord réagi quand vous avez pris connaissance des premiers résultats de cet incroyable succès ?
Ça a été un peu surréel, c'est-à-dire que c'était dimanche en fait. Je savais que le comité scientifique indépendant qui est organisé par le NIH, donc l'INSERM américain, l'équipe du Dr Fauci, avait une réunion à 10h du matin pour revoir les données du vaccin.
Oui.
Et donc j'attendais impatiemment, j'étais dans mon bureau à la maison, je travaillais, essayais de me distraire. Et j'ai eu un texto de quelqu'un de mon équipe vers 13h. Qui m'a dit « Connecte-toi, voici le numéro, on va entendre les résultats ». C'était un peu surréel parce que comme nous, on n'avait aucune idée des résultats, on notait tous les résultats parce que chaque chiffre était nouveau. Quoi. Donc, oui, on demandait de répéter. Et puis, à un moment, c'est rigolo, j'ai eu mon patron médical qui est quelqu'un d'extraordinaire qui, à un moment, s'est levé. Il était avec le son off de son Zoom. Il s'est levé, il s'est mis à danser autour de sa chaise chez lui. Ça veut dire que si vous recevez le vaccin Moderna et que ces données sont confirmées dans les jours qui viennent, vous avez pratiquement 95% de chances d'avoir aucun symptôme de maladie. Et si vous avez des symptômes de maladie, ils ne seront pas sévères,
alors,
ils seront légers.
Et ce qui est notable aussi, Stéphane Bancel, c'est que votre vaccin fonctionne de la même manière chez tous les patients. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il est aussi efficace chez les personnes les plus âgées et les plus fragiles ?
Alors, je n'ai pas encore les détails par sous-catégorie de personnes. On les aura avec l'analyse finale. Donc, il faut encore être tous patients, ce qui n'est pas mon fort. En encore donc 7 à 15 jours.
Oui.
Ce qu'on sait par contre sur les études de phase 1, qui était pour moi la chose la plus importante, c'est que toutes les personnes âgées de plus de 75 ans qui ont été testées ont toutes répondu au vaccin, donc ont tous fait des anticorps neutralisants et tous fait des anticorps neutralisants au même niveau que des personnes convalescentes. Ce qu'on ne sait pas effectivement,
c'est est-ce que l'efficacité, Stéphane Bancel, est la même chez un patient de 75 ans que chez un patient en bonne forme de 40 ans?
Voilà, lorsque je n'étais pas encore pour vous donner une affirmative à 100%, c'est donc les 5% de personnes qui ont eu des maladies légères et non pas sévères.
Oui.
Est-ce qu'ils avaient, par exemple, plusieurs facteurs de comorbidité et âgés ? Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que, par exemple, les 5 personnes, c'est une personne de 65 ans qui avait aussi du diabète et qui était fumeur, par exemple.
Oui. Est-ce que vous savez aujourd'hui, Stéphane Bancel, combien de temps il sera efficace, ce vaccin, une fois injecté ?
Non, sur aucun des vaccins, on ne sait vraiment, parce que le virus, premièrement, est tellement nouveau qu'on ne sait pas tout sur ce virus. On est encore en train de découvrir, comme vous lisez dans la presse quotidiennement, des nouvelles caractéristiques de ce virus, des fois bien, des fois négatives. Ce qu'on pense aujourd'hui, parce qu'on est maintenant sur la phase 1, il semblerait que les taux d'anticorps demeurent assez élevés. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'une protection d'au moins 6 mois, ce qui serait bien sûr un minimum à avoir, semble pratiquement assurée. Alors, je fais attention encore à mes mots parce qu'avec la science, il faut être humble. Ce qu'on se fait savoir bientôt, c'est est-ce qu'on peut tirer au moins 12 mois. Mes scientifiques pensent qu'on va pouvoir tirer au moins 12 mois chez une personne en bonne santé. La question va se jouer, je pense, chez les personnes âgées ou chez les personnes qui ont des facteurs de comorbidité. Parce que quelqu'un qui est obèse, fumeur et diabétique aura la même durée de protection que quelqu'un qui fait du sport et qui a 35 ans. Nous ne savons pas aujourd'hui. Le système immunitaire est beaucoup moins fort chez quelqu'un qui a des facteurs de comorbidité ou qui est âgé. Donc, on va découvrir ça, dirais, premièrement, quand on aura les données entières de l'étude et puis dans les mois à venir.
Stéphane Bancel, votre vaccin, à la différence de celui de Pfizer, si j'ai bien suivi, il peut être conservé dans des congélateurs classiques. Pas besoin donc d'être à moins 70 degrés. C'est colossal, ça, comme découverte, car ça va permettre des conditions de stockage bien plus simples. Et pour nous, simples patients potentiels demain, ça veut dire qu'on pourra aller se faire vacciner chez son médecin.
Exactement. Et on a travaillé en fait depuis des années sur ces améliorations. Il faut savoir que la molécule d'ARN messager n'aime pas la température ambiante. C'est une molécule qui adore le froid. Elle est très stable quand il fait très, très froid. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup investi au niveau des processus industriels, au niveau de la science, pour doucement améliorer tout ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le vaccin est conservé pendant au moins 6 mois à moins 20 degrés, qui est la température d'un congélateur classique que vous avez à la maison. Donc, ce n'est pas un problème de logistique. Et comme vous le disiez aujourd'hui, c'était une des nouvelles d'hier, c'est que nous avons les données de stabilité. En fait, vendredi dernier, c'est tout récent, qui nous montrent qu'on est capable d'étendre. Initialement, c'était 7 jours, mais maintenant, c'est 30 jours de stockage dans un frigo normal, entre 2 et 8 degrés Celsius, qui est l'équivalent d'un frigo que vous utilisez pour vendre de l'insuline. Donc, ça va permettre une grande distribution facile du produit, qui va être une très grande différenciation avec le produit de Pfizer.
Alors, tout n'est pas encore terminé, Stéphane Mancel, et puis il y a le feu vert des autorités sanitaires à obtenir aux États-Unis et puis chez nous ici en Europe. À partir de quand pensez-vous pouvoir commencer les campagnes de vaccination?
Donc, le scénario au niveau des étapes prochaines, c'est, je pense que d'ici la fin novembre ou les premiers jours de décembre, on aura l'analyse finale de la phase 3 et tous les dossiers réglementaires écrits et vérifiés au niveau de la qualité de ces dossiers, bien sûr. Une fois que le produit est approuvé, la distribution pourra commencer à ce moment-là. Et donc, en fait, nous, on distribuera les vaccins au gouvernement qui seront, eux, en fait, en charge de s'assurer de la distribution et de l'allocation des produits. Parce qu'il n'y aura bien sûr pas des produits pour tous les habitants de chaque pays au démarrage. Et donc, les gouvernements vont devoir décider avec les autorités publiques qui a accès au vaccin d'abord. J'anticipe, bien sûr, les personnes âgées. Le corps médical sont sans doute les personnes ayant le plus besoin de vaccins au démarrage.
J'imagine que la production dans les usines a évidemment déjà commencé, que les doses sont déjà en train d'être empaquetées, préparées à être expédiées pour le moment où vous aurez le feu vert des autorités sanitaires américaines et européennes. Est-ce que des contrats ont déjà été passés avec l'Europe et la France?
Alors, effectivement, nous avons commencé à fabriquer depuis cet été à risque les produits, parce qu'effectivement, à l'époque, on ne savait pas l'efficacité du produit, hein, s'il allait être 45% et pas marcher. Et pas être approuvé, ou ce qu'on a trouvé à 94,5. Donc, on a pris tous ces risques-là. Nous avons des contrats avec beaucoup de pays. Nous avons des discussions avancées avec l'Europe, mais à ce jour, nous n'avons pas encore de contrat signé avec l'Europe.
Je voudrais qu'on termine, Stéphane Mancel, il nous reste quelques instants, je voudrais qu'on termine avec cette incroyable histoire qui est celle de Moderna. C'est vous qui avez eu l'intuition de ce vaccin. Vous racontez que vous étiez au Forum économique de Davos le 20 janvier dernier. Personne n'a encore l'idée de ce qui va se passer, mais vous, ce jour-là, vous échangez avec deux infectiologues de renom qui sont au courant de ce qui se passe en Chine. Et là, vous comprenez. Vous comprenez que la crise va être mondiale car vous prenez, dites-vous, une carte des plans de vol de l'aéroport de Wuhan et vous voyez ces allers-retours que font les avions, des dizaines par jour, et vous vous dites, on va être face à quelque chose de terrible. C'est ça?
Effectivement. Donc, j'ai découvert ce virus, en fait, début janvier. J'étais en France, en fait, entre Noël et le Réveillon, lorsque j'ai découvert l'existence de ce nouveau virus respiratoire en Chine. Tout de suite, j'ai pris un contact, j'ai envoyé un email littéralement dans les 5 minutes d'avoir lu cet article à l'équipe de Dr Fauci avec qui on collaborait depuis des années. Et donc, toute l'aventure du vaccin a commencé à ce moment-là. On a pensé au début janvier que ça allait être comme le SARS ou le MERS, c'est-à-dire une petite épidémie locale. Et c'est effectivement, comme vous le dites, la semaine du 20 janvier quand j'étais à Davos, où j'avais en fait chaque jour ou même plusieurs fois par jour les updates de ces deux scientifiques infectiologues de renom qui avait des données directement arrivant de Chine, qui étaient données encore non publiques, et où je me suis dit, en fait, on va vers une pandémie comme la crise de 1918 de la grippe.
Bien, et il paraît, Stéphane Mancel, que dans le bureau de Donald Trump, vous avez été réuni avec tous les représentants de la Big Pharma, et vous avez fait sensation, paraît-il, auprès du président américain, qui a dit aux autres, regardez-le, lui, le français, vous me parlez en mois et en années, il me parle en jours. C'est vrai, ça aussi?
Mais effectivement, c'est l'avantage de la technologie moderne. La biologie et la médecine est en train de basculer au monde digital. Il faut voir que le développement de ce vaccin dans les laboratoires de Moderna a pris 48 heures.
Oui.
Tout fait sur ordinateur. Nous n'avons jamais eu accès au virus. C'est de la science-fiction pour la médecine traditionnelle. Vous savez, j'ai passé mes années formatrices de ma carrière dans les laboratoires Lilly. Ça prend des années, normalement, de développer une molécule dans les animaux.
Ouais, c'est ça la force des biotech aussi que vous incarnez, Stéphane Mancel, avec Moderna. Merci infiniment. Et on doit dire qu'on est très fiers ici en France aussi que ce soit un Français qui soit à l'initiative d'une solution qui peut potentiellement demain sauver la planète. Merci infiniment, Stéphane Mancel.
Merci, bonne soirée.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, vous restez avec nous dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On évoquera cette proposition de loi polémique. Faut-il interdire de filmer les policiers dans les manifestations? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et Jean Castex, auditionné en ce moment par les députés sur sa gestion de la crise du Covid. Le Premier ministre est le dernier aux responsables à passer devant cette commission d'enquête instaurée il y a près de 6 mois et qui a déjà entendu une cinquantaine de personnes. Emmanuel Macron devrait théoriquement s'exprimer la semaine prochaine sur la suite du confinement et sur les modalités du déconfinement. Le gouvernement et les représentants des commerçants vont se réunir vendredi pour évoquer le sort des commerces dits non essentiels. Les professionnels du secteur demandent, vous le savez, une réouverture le 27 novembre, jour du Black Friday. Mais pour l'instant, l'objectif du gouvernement reste le 1er décembre, si tout va bien. Le gouvernement qui débloque 400 millions d'euros pour le sport professionnel et amateur. Le chef de l'État souhaite une reprise du sport pour les mineurs en club dès le mois prochain. En revanche, pas de retour des spectateurs dans les stades avant janvier.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Eh bien voilà, une météo plutôt simple pour demain et très lisible. Du beau temps partout, ma chère Anissa.
À la carte, elle est très lisible. On a du jaune quasiment sur toute la France. Après la dissipation des nombreux brouillards sur la moitié nord, le soleil va s'imposer presque partout, vous le disiez, Julien, sauf à l'ouest, en Bretagne, demain matin et jusque sur les Pays de la Loire dans l'après-midi. Le temps est très couvert, gris, avec des petites pluies et du vent sur les côtes. C'est une nouvelle perturbation qui arrive. Les températures sont fraîches demain matin à cause de ces nuages qui ne sont pas là. Du coup, ça baisse 0 à 11 degrés de Chambéry à Cherbourg. Mais alors, dans l'après-midi, ça va grimper et bien grimper. 13 à 21 degrés au meilleur de la journée, jusqu'à 24-25 degrés au sud de la Garonne demain.
Bah oui, il n'y a plus de saison, madame.
Non.
Il n'y a plus de saison.
Merci. Bien au-dessus des normales.
Merci
ouais.
Anissa, bien au-dessus des normales demain. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Olivier Duhamel qui s'installe tranquillement. Bonsoir Olivier. Anne Fulda, grand reporter au Figaro. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Merci de votre présence. Alors, avant de parler de la sécurité globale et de cette polémique sur cette mesure voulue par la majorité sur les policiers, ici, je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à cette dernière minute concernant la phase de déconfinement, car les choses sont peut-être en train de se préciser. Faut-il autoriser les Français à partir en vacances en fin d'année? On vient d'apprendre il y a quelques instants que le président de la République devrait s'exprimer la semaine prochaine, peut-être pour définir les contours de cette vague et de cette phase de déconfinement. En tout cas, les stations de ski sont prêtes à ouvrir, nous dit-on. C'est ce que disait hier le directeur de la Compagnie des Alpes. Idem ce matin sur notre antenne, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, se dit lui aussi prêt à faire rouler les trains.
La SNCF est complètement mobilisée. Dès lors qu'on a le go sanitaire, il faut que le gouvernement puisse nous dire 10 à 15 jours avant, vous pouvez y aller. Donc on attend cette décision qui devrait intervenir, je l'espère, fin novembre ou tout début décembre.
Bien, nous y sommes, Anne Fulda, ça y est, on sent que le gouvernement est prêt à, pardon de l'expression, mais lâcher du lest.
Oui, ça semble bien effectivement ressembler à ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'on passe comme ça pas d'un extrême à l'autre, mais enfin pas loin. Quoi. Il y a très peu de phases de décompensation.
On va voir, hein. Je pense que le déconfinement aura lieu par étapes.
Oui, je ne pense pas qu'effectivement on va nous annoncer un déconfinement, mais enfin visiblement, en tout cas tant mieux, le ton est désormais plus à l'optimisme. On a entendu Olivier Véran déjà qui a un petit peu préparé le terrain. Et on voit bien que après des chiffres inquiétants et puis une ambiance assez catastrophiste, le ton change.
Oui.
Et aussi, c'est vrai que l'annonce de ces vaccins, vous venez d'interviewer
le patron de Moderna, oui.
le prouve. Donc il y a une ambiance plus optimiste.
Et oui. C'est vrai que les indicateurs sont aussi bons. Hein. Factuellement, le R0, le fameux indicateur qui nous donne le niveau de contagion de chaque individu, est ainsi un plus bas depuis juin. On est en train donc de revenir d'une certaine manière à la normale. C'est ce que dit Anne Fulda. Olivier Véran a d'ailleurs dit que le pic était en train de s'approcher, en tout cas, il y a une amélioration qui est en cours, Charles Villeneuve. Il est temps de déconfiner, en tout cas pour les petits commerces, parce que c'est quand même ce qui s'annonce là, à partir du 1er décembre ou du 27 novembre.
Oui, enfin, un déconfinement mesuré, parce que je pense qu'on a tiré la leçon de ce qu'on nous avait annoncé avec le même ton optimiste en fin juin, début juillet, et puis on a reconfiné partiellement, pas de manière aussi dure. Mais il ne s'agit pas non plus d'ouvrir les vannes et de refaire finalement rebelote.
Mais quand le président de la République prend la parole, généralement, c'est qu'il y a des annonces. Et c'est
oui,
ce
mais
qui semble se dessiner.
Le président de la République avait pris aussi la parole au 14 juillet. Il était tout aussi, évidemment, enthousiasme. Il a ouvert toutes les portes.
Oui, il avait dit « nous serons prêts en cas de seconde vague », c'est vrai.
Voilà, bon, non, mais je pense que ce sera mesuré comme déconfinement. Je ne pense pas que ce sera de toute façon, je crois qu'il a tenu compte et il a entendu l'appel au secours quasiment de tous les petits oui. commerces, y compris ce à quoi je tiens. Je pense qu'Olivier aussi, Duhamel, les librairies.
Même moi,
et évidemment, Anne Filda, qui elle vient d'écrire un livre.
Elle vend beaucoup plus que moi, Anne.
C'est monstre. Oui, d'autant que. Doit mesurer, si vous voulez, le succès de ce livre. Elle a peut-être un peu de difficulté en ce moment, mais bientôt, il n'y a aucun problème.
Il y a les commerces, il y a les librairies, évidemment. C'est l'enjeu principal pour le 1er décembre, pour sauver la saison d'une certaine manière, si tant est qu'elle puisse encore l'être, Olivier Duhamel. Mais il y a aussi la question de l'acceptation des Français et cette histoire de vacances. Parce qu'il y a ceux qui peuvent partir, ceux qui ne peuvent pas partir. Mais à Noël, il y a quand même une tradition, c'est que chacun retourne en famille. Voilà. Et ça, c'est compliqué d'empêcher les Français de le faire.
D'abord, je mène une bataille sans fin et constamment perdue contre le mot déconfinement. Je trouve que ce mot est catastrophique. Il était catastrophique de l'utiliser au mois de mai. On devrait avoir des échelles de confinement, comme on a des échelles de vigie pirate. Et on devrait dire, là, bah, on va passer le 1er décembre d'un déconfinement à 4 sur l'échelle à un déconfinement à 2. Pardon, confinement, oulala.
On vous a suivi.
Oui, d'un confinement à 4, un confinement à 2, parce que déconfinement, les gens comprennent, ça y est, c'est fini,
vous vous souvenez les moments où Olivier Véran nous faisait des cartes toutes les semaines, avec zone rouge, zone orange, voilà. Zone verte, mais ça ne marchait pas.
Non, mais d'accord, mais très franchement, ça marche encore moins quand on dit déconfinement, parce que les gens pensent que c'est fini. Deuxièmement, quels sont les deux grands risques pendant les vacances? Évidemment qu'il faut donner de l'air, évidemment que comme ça, si ça s'arrange, il faut alléger le confinement. Il y a un grand risque. Plutôt chez les personnes âgées au moment de Noël, et particulièrement chez les croyants sur les messes de minuit. Et il y a un gros risque chez les jeunes sur le réveillon. Pourquoi ? Bah parce que les jeunes ont l'habitude de faire des fêtes considérables pour le jour de l'an. Et
vous ne faites pas la fête, vous, le 31 ?
Non, je fais aucune.
Non, rien
fête.
Du tout.
Moi, je suis un type sinistre. Mais et en revanche, en tout cas, même les croyants très peu pratiquants, quand ils pratiquent plus qu'une chose, c'est souvent la messe de Noël et la messe de minuit. Et donc là, il faut absolument... Mais attendez, c'est très compliqué, hein, d'un mot. Parce qu'il ne faut absolument pas que les gens fassent s'asserrer les uns contre les autres et sans masque. Et en même temps, vous n'allez pas mettre des flics dans tous les appartements de jeunes le soir.
De toute façon, c'est interdit
31,
de rentrer dans les appartements.
Vous n'allez pas mettre des flics dans les églises.
La difficulté, c'est de ne pas redonner un coup d'accélérateur à la circulation
Exactement.
Du virus. C'est ça la difficulté.
Bien,
c'est la raison pour laquelle ce sera mesuré.
On verra. Anne Fulda.
Non, cela dit, les Français, s'il y a des fêtes familiales, les Français circuleront à nouveau dans toute la France. Donc obligatoirement, il y aura à nouveau un risque de diffusion.
Oui, mais Anne, ça pourra être limité.
Tout à fait, oui. Mais...
Oui, puis après, on ne peut pas vivre confiné
bien
toute
sûr.
Notre vie quand
non,
même. Hein.
Tout à fait.
Il
ne
faut pas
des perspectives.
Refaire comme on a fait lors du pseudo-déconfinement.
Bien.
Cet été.
Donnez votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que les choses s'accélèrent. On en parlera très largement tout à l'heure à 19h. Le président de la République pourrait donc prendre la parole la semaine prochaine et faire des annonces. Dans un instant, retour donc à la loi sur la sécurité globale. On en parle après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h40, le débat des grandes voix qui se poursuit avec toujours Charles Villeneuve, Olivier Duhamel et Anne Fulda. Et on parle donc ce soir de cette proposition de loi sur la sécurité globale discutée depuis aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui prévoit notamment d'interdire la diffusion d'une image d'un membre des forces de l'ordre dans un but, nous dit le texte, malveillant. Et ça fait polémique, on va en parler. D'abord la réponse de Gérald Darmanin qui était interrogé tout à l'heure sur cet article du texte. On écoute la réponse du ministre de l'Intérieur.
Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer ? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser ? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer l'intervention de police ? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières ? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers ? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés, madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté.
Bien, évidemment, les exemples choisis choquent tout le monde, et nous les premiers. Si le texte est adopté, précision, pour celui qui diffuse donc les visages des policiers, ce sera passible de 45 000 euros d'amende et d'un an de prison. Alors d'un côté, c'est vrai, on protège l'identité de nos policiers, et c'est bien normal. De l'autre, n'est-ce pas la liberté du citoyen de pouvoir rendre compte du travail de la police quand il y a un abus ? Olivier Duhamel.
Bon, d'abord, Gérard Darmanin, il nous prend vraiment pour des imbéciles complets, quoi, parce que aujourd'hui, vous ne pouvez absolument pas, c'est totalement illégal de faire un appel au viol ou un appel au meurtre. Il y a toutes les dispositions pénales pour le réprimer. Donc dire qu'il fait cette loi pour ça, c'est grotesque.
C'est démago.
C'est démago, c'est faux. C'est juste faux. Alors, il dit qu'on pourra continuer à filmer, oui, continuer à diffuser, oui. Qu'est-ce qu'il a dit le 2 novembre ? Il a dit le 2 novembre, j'avais fait une promesse, c'est de ne plus pouvoir diffuser des images de policiers sur les réseaux. Cette promesse sera tenue. Alors, il faut savoir, il dit le contraire à quelques jours d'intervalle parce qu'il y a trop de protestations. Cette loi, en tout cas cette disposition de l'article 24, sans parler éventuellement de l'article 22 sur les drones à tout moment ou presque, elle est soit complètement inutile, soit dangereuse.
Bien. C'est un texte qui a suscité en tout cas l'ire du syndicat de la magistrature, des entreprises de presse, des syndicats de journalistes, en passant par la Ligue des droits de l'homme ou encore des avocats. Charles Villeneuve, texte liberticide ou indispensable pour garantir, comme le dit le ministre Darmanin, la sécurité des forces de l'ordre ?
Moi, je trouve qu'il y a une légitimité dans la demande des policiers et il y a une légitimité à trouver un point d'équilibre. Notamment, par exemple, en renforçant l'indépendance de l'inspection générale de la police nationale, ne serait-ce qu'en la rendant plus indépendante, pas complètement, c'est impossible, du pouvoir central représenté par le ministre de l'Intérieur, mais avec des auditions ouvertes devant, par exemple, la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je trouve d'ailleurs que le Parlement, aujourd'hui, aussi bien députés que sénateurs, sont trop absents de toutes les crises qu'on vit. Aussi bien celle du terrorisme que celle des violences policières, que celle des violences terroristes ou de la crise sanitaire.
Mais donc le bon point d'équilibre pour vous, il est où dans cette disposition ?
Il est dans le fait qu'on rend beaucoup plus indépendant que ne l'est l'inspection générale des services, la police des polices, ou même d'ailleurs la police judiciaire, c'est-à-dire l'inspection des services judiciaires.
Mais donc de l'autre côté, vous êtes pour l'interdiction de la diffusion des visages des policiers.
Je suis contre, si vous voulez, parce qu'il faut arrêter. On a assez fait tous ici des reportages pour savoir que quand on a des images, on peut parfaitement, sur le plan judiciaire, voir en clair ces images, même si elles ont été floutées. Là, le problème, c'est les réseaux sociaux.
Oui.
C'est ça dont parle de toute façon, le ministre de l'Intérieur.
Sauf qu'il y a beaucoup de violences policières.
Raison de dire que quand on incite au viol, oui, il est bien évident qu'il est facile,
évidemment,
de saisir, d'identifier l'auteur de cette incitation au viol et de le traduire en justice.
Sauf que dans les violences policières manifestes, hein, qui ont éclos pendant les manifestations de Gilets jaunes, on a vu plein de vidéos passer, enfin, je veux dire, qui étaient indiscutables. Ça ne sera plus possible demain avec cette disposition.
Non, visiblement. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de voir où placer le curseur, mais parce que bon, là, on parlait de violence, la violence elle est partout et c'est vrai qu'elle est sur les réseaux sociaux et pour tout le monde. Et que bon, les policiers se coltinent d'une certaine façon à la violence tous les jours. Donc, et c'est vrai qu'ils sont victimes aussi de violence. Néanmoins, est-ce qu'ils le sont au point de devoir qu'on touche à la loi de 1881, qui est quand même un peu un texte sacré, qui est la loi sur la liberté de la presse. Donc, évidemment que les policiers ne doivent pas être comme ça mis en pâture sur les réseaux sociaux, comme n'importe quel citoyen d'ailleurs, ce que disait Olivier Duhamel tout à l'heure. Mais il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression qu'il soit du coup paré d'une espèce d'impunité, de protection particulière.
Oui,
alors
oui,
ils sont victimes de violences, oui, il y a des faits divers, il y a eu les chiffres, enfin pas des faits divers, les chiffres de la Direction Générale de la police.
Oui, on apprend qu'en 15 ans, les agressions dans les policiers
ont doublé, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une donnée à prendre en compte, mais il ne faut pas donner ce sentiment qu'eux seraient protégés plus que le citoyen normal.
Bien, on continue d'en parler dans quelques secondes, 18h46. Pouvoir filmer un policier, est-ce un droit démocratique ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, la suite du débat des grandes voix avec toujours à mes côtés Charles Villeneuve, Olivier Duhamel et Anne Fulda, grand reporter au Figaro. Et on parle donc ce soir de cette proposition de loi sur la sécurité globale qui fait polémique à l'Assemblée nationale et dans le débat public et qui prévoit notamment d'interdire la diffusion d'une image d'un membre des forces de l'ordre dans un but, nous dit le texte, malveillant. Alors question, est-ce une atteinte au droit d'informer, comme on l'entend beaucoup? Est-ce que dans les faits, il y aura une autocensure des médias par crainte d'une condamnation? Est-ce qu'il y aura, Olivier Duhamel, si vous filmez dans une manif, vous pourrez être pris à partie par les forces de l'ordre car vous n'en auriez pas le droit? Est-ce qu'on baisse le rideau alors que le citoyen est dans son droit démocratique de filmer les agissements des policiers?
Deux choses. La première, c'est ce que pense l'immense majorité des journalistes concernés. Je signale que je crois qu'il y a une quarantaine de sociétés de rédacteurs ou équivalents.
Ou d'agences de presse.
À commencer par l'AFP, mais aussi Le Figaro, Anne Fulda, mais aussi Europe 1, etc., qui ont protesté contre cette mesure. Deuxième chose, mais pourquoi, Anne Fulda le disait tout à l'heure, mais je veux enfoncer le clou et préciser avec un exemple, pourquoi les seules forces de l'ordre, si le seul but était d'empêcher que sur les réseaux sociaux, on puisse identifier quelqu'un pour appeler à lui nuire, ça c'est indispensable et il faut trouver les dispositions adéquates. Mais si c'est filmer une violence policière sans ce que je viens de dire avant, c'est une vraie atteinte à la liberté d'informer. Et pourquoi à ce moment-là, la protection, si c'est que le premier point, pourquoi les seuls policiers, pourquoi pas? Allez, un exemple au hasard, les enseignants, Samuel Paty, je veux dire, quelqu'un qu'on met sur les réseaux sociaux pour aller l'égorger, on ne va pas le protéger de la même manière qu'un policier? Il faut une même règle pour tout le monde sur cela. Sur l'agression, appelée à l'agression. Alors, sur les réseaux sociaux.
Deux choses. D'abord, rappeler que c'est en contradiction avec la circulaire, j'ai retrouvé ça, de 2008, du ministre de l'Intérieur de l'époque, rappelant que les policiers ne peuvent s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission. On se souvient qu'à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, qu'on ne peut pas taxer de laxisme, qui était président de la République. Question pour vous, est-ce qu'il y aurait eu une affaire Benalla si cette mesure était aujourd'hui adoptée? C'est vrai qu'on n'aurait pas eu le droit, si on en suit le texte, de diffuser les images du collaborateur d'Emmanuel Macron usurpé un brassard policier.
En tout cas, cette affaire Benalla n'aurait probablement pas eu le même poids, puisqu'effectivement, elle est née à partir d'une vidéo. Mais ce n'est pas la seule affaire. Il y a eu, au moment des Gilets jaunes, il y a eu l'affaire Rodriguez. Il y a eu quand même plusieurs affaires de violence policière qui ont été relevées à cette époque. Donc, c'est vrai qu'à ces moments-là, les médias jouent aussi un rôle d'alerteur, entre guillemets, c'est pas très joli. De lanceur d'alerte, de vigie. Donc, ce rôle-là est quand même important. Donc, c'est difficile de s'asseoir dessus.
Charles Villeneuve.
Non, mais quand vous faites un reportage dans une brigade anti-criminalité, plusieurs des policiers refusent d'être filmés. Ou en tout cas, nous impose aux journalistes d'être floutés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui ou non?
Oui.
Bon. Quand vous faites un reportage dans les prisons, tous aujourd'hui, les gardiens de prison ne doivent pas apparaître à l'image. Vous floutez aussi bien les détenus que les surveillants de prison. Oui ou non? Est-ce que vous avez vu un seul reportage depuis 5 ans dans les prisons en clair? Ça n'existe pas. Alors, je ne comprends pas très bien où est le problème. Les journalistes, vient de dire le ministre de l'Intérieur, peuvent filmer de toute façon les manifestants. Par exemple, les affrontements entre les Black Blocs et puis les gendarmes, les gendarmes mobiles ou les CRS ou les policiers de chargés de la sécurité publique.
La loi sera...
Il n'y a aucun problème. C'est pas ça qui va être interdit.
La loi
c'est
interdit pas de filmer, elle interdit de diffuser.
De diffuser, absolument.
De diffuser sur les réseaux sociaux, et de désigner en clair...
Sur les réseaux sociaux. Le texte de l'article 24 n'est pas restreint aux réseaux sociaux.
Non, mais il est impossible. Il vient de le dire. On prend au pied de la lettre ce que vient de dire le ministre.
Mais est-ce qu'on le croit?
On peut, les journalistes, filmer.
On se blague.
Oui, non, mais non.
Quand il nous dit que c'est pour éviter les appels au meurtre et au viol, j'ai du mal à le croire.
Jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, on le peut. On verra à l'issue du débat parlementaire si vraiment ce serait imposé.
Je repose la question à tout le monde. Est-ce que c'est un droit démocratique de pouvoir, au-delà des journalistes, pour les citoyens que nous sommes, filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions? Et ensuite, si on est témoin d'une arrestation qu'on juge arbitraire ou qu'on juge problématique, de pouvoir s'en faire l'écho. Est-ce que ça, c'est un droit démocratique ou pas? Parce que aussi tout le point du texte de la loi. D'accord.
Oui.
Mais regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'affaire George Floyd. C'est parti de là, quand même.
Est-ce qu'il s'est passé aussi, pratiquement dans le même cas, où les policiers vont être déférés devant la justice?
Oui.
Il y a aussi un homme, rappelez-vous, à vélo, qui a été arrêté et qui est mort sous la pression, justement, de deux des policiers, qui vont être traduits. En tout cas, le juge d'instruction les a mis en examen.
Oui.
Donc, pour l'instant, rien n'est venu obstruer l'enquête, non seulement judiciaire, mais l'enquête de la police, des polices sur ce plan-là, et l'enquête des journalistes.
Pour être précis, le droit de filmer et de photographier, ça a une fonction, on vient de le dire, de révélation. Mais ça a aussi une fonction de prévention. Parce qu'à partir du moment où vous savez que quand vous êtes en train de réprimer comme il faut le faire, mettons à tel moment,
dissuasif,
dans une manif, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, parce que sinon un gars risque de vous photographier et vous risquez de vous retrouver avec l'inspection générale et que sais-je, traduit en justice, bah, vous y réfléchissez à deux fois avant de cogner. Mmh. Trop fort.
Est-ce que les journalistes soient totalement irresponsables de tout?
Oui.
À Nice, on a filmé de toute façon une brigade d'intervention, je me souviens, il y a 4-5 ans de ça, qui se faisait caillasser par la population du quartier, des quartiers nord de Nice. Eh bien, de notre propre initiative, on a compris que tous ces policiers pouvant être identifiés, nous les avons floutés. Donc, les journalistes ne sont pas aussi irresponsables qu'on l'imagine.
Vous, prêchez un convaincu. Merci, merci Charles Villeneuve. Merci à tous les trois d'avoir animé ce soir le débat des grandes voix à mes côtés.
Europe 1. Julien Bugier.
18h56, vous restez avec nous. Comme chaque soir, on ouvre le Club des idées dans quelques secondes après le journal. Comment sauver le sport français ? On en débattra avec nos invités. À tout de suite.